Et on va commencer le troisième cours sur Ashrei Uvetecha. On s'est arrêté à Malchoutra, Malchout Kol Olamim. Dans un cours très important, on va parler aujourd'hui de la Parnassa. Comment dans l'Ashrei on parle de la Parnassa et les différentes ségoulottes. Malchoutra. Le même de Malchoutra. Voilà. D'abord on traduit et après on va commenter. Verset par verset. Donc jusqu'à présent, de quoi on a parlé dans le Ashrei? Jusqu'à présent, dans le Ashrei, on a parlé du fait que, on a parlé de deux points. Le premier point qu'on a parlé dans Ashrei, c'est l'importance de venir à la synagogue, même si on ne fait pas la tfila. C'est ce qu'on avait expliqué. Heureux ceux qui viennent à la synagogue, même s'ils ne font pas la tfila. Et donc, c'est un point qui est revenu deux à trois fois dans le Ashrei, dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu d'être présent et d'être là. Et bon, un jour, on fera plus. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui était très présent dans le Ashrei aussi, on a parlé de la transmission, l'importance de la transmission. Qu'on peut être soi-même très religieux, mais si on ne transmet pas ça à nos enfants, si on ne transmet pas ça à nos enfants, on perd notre temps, on n'a rien gagné. Ça, c'est un deuxième point. Et il y avait aussi un troisième point général, bien sûr, on parle de la reconnaissance et du remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc, on a pris différents aspects, qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, comment à Kadosh Baruch Hu pense toujours au bien de ses créatures, et même lorsqu'il doit les punir, comme on a expliqué la semaine dernière, toujours, il s'efforce de les punir le moins possible. Comme on avait expliqué l'exemple avec les Égyptiens, c'est-à-dire dans la paracha cette semaine, Béchalach, que même, comment ça se fait que je vis chez le Pessah, on ne fait pas le Hallel complet, on a expliqué, parce que, comme il y a des créatures d'Akadosh Baruch Hu qui ont souffert, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous faites le Hallel complet alors qu'il y a mes créatures qui ont souffert? Pourtant, les Égyptiens, avec tout ce qu'ils nous ont souffert, on peut vraiment dire qu'ils le méritaient. On voit quand même que pour Akadosh Baruch Hu, très important, là, le kavod, le respect qu'on doit avoir envers ces créatures. Maintenant, on va passer à Malchoutra, Malchut Kol Olamim. Vous avez le même de Malchoutra? On suit les lettres du Aleph Bet, on est au même de Malchoutra. Jusqu'à présent, on a eu toutes les lettres de l'Aleph Bet. On est d'accord? On n'a sauté aucune. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zayin, Tret, Tet, Yud, Chaf, Lamet, Mem. D'accord? La seule qu'on va sauter, c'est le Noun. Et on expliquera pourquoi. Donc, il dit comme ça. Malchoutra, Malchut Kol Olamim. Sa royauté à Kadosh Baruch Hu est la royauté de tous les mondes. Ça veut dire quoi tous les mondes? Est-ce que ça sous-entendrait qu'il y a plusieurs mondes? On dit tous les mondes au pluriel. Alors, un des commentaires, le commentaire du Yad Yosef, il dit la chose suivante, il dit qu'on ne parle pas seulement ici de notre monde physique, on parle également du Olam Haba. Et dans le Olam Haba, on sait que c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner à chaque tzaddik 310 olamot, 310 mondes. Ça veut dire que partout où il ira, il pourra toujours monter encore plus haut et encore plus haut. Il y a 310 sections, 310 portes. Et donc c'est par rapport à ça qu'on dirait Malchutra, Malchut Kol Olamim, que la royauté d'Akadosh Baruch Hu est la royauté de tous les mondes. On va expliquer un peu plus. Ou même Shaltecha, Bechol Dor Vador, et ton règne, Bechol Dor Vador, sera dans toutes les générations. Donc on voit ici que pour parler de la royauté, je suis curieux de savoir comment ils ont traduit en français ici. On a employé deux termes, Malchut et Memshala. Alors comment ils ont traduit en français, oui?
Malchut, le règne.
Le règne, et Memshala?
Memshala, la domination.
Domination. Alors très bien, justement, on va essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre Malchut et Memshala. Parce que c'est un terme qui revient très souvent dans la Torah. Malchut et Memshala. Malchut, c'est le règne. Ça veut dire le fait que je suis roi sur quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je m'en occupe. D'accord? Ça veut dire que je suis roi sur quelque chose et que je domine. Mais ça ne veut pas dire que je m'en occupe techniquement. Memshala, c'est quoi? Memshala, c'est la personne qui va régner concrètement. Par exemple, l'exemple classique qu'on a, c'est Paro et Yosef, les Avdil. Paro, c'est le roi. Yosef, c'est celui qui dirige. Donc Paro, c'est le Melech. Yosef, c'est le Moshel. Paro, c'est le roi, c'est lui qui règne, mais dans les faits, c'est pas lui qui s'occupe des affaires de tous les jours. C'est pas lui. Et Yosef, c'est le Moshel, c'est le dirigeant, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Exactement. C'est le gouverneur. Non, mais ça peut plus que ça quand même, parce que ça, c'est un titre honorifique.
Mais non, on dit Memshala Netanyahou.
Oui.
On dit Memshala.
Président et directeur général.
Voilà. Le président et le directeur général. D'ailleurs, on dit bien le Memshala, ça vient du mot gouverneur. Dans le mot gouverneur, on a le mot gouvernail. Ça veut dire quoi gouvernail? Ça veut dire c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige concrètement. Alors, si.
Qui c'est qui dirige là?
Pérez et Netanyahou. Pérez, c'est le, comment on appelle ça? Pérez, c'est le roi. Si on prend cet exemple.
Ouais,
mais
ouais.
Bon, c'est honorifique aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Et Netanyahou, ce serait celui qui dirige.
Oui. C'est ça, exactement.
Pour lui, c'est les deux.
Alors, justement. Donc, et ça, on voit que dans beaucoup d'endroits, on nous parle justement de Melech et Memshala. Par exemple, un autre exemple qu'on voit dans la Torah, Eliezer, l'esclave d'Abraham. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit que Eliezer, il était Moshel Bechol Asher Yeshlo. Que Eliezer dominait tout ce qui appartenait à Abraham. Ça veut pas dire que c'était le patron. Le patron, c'est Abraham, mais c'est l'administrateur. C'est lui qui s'en occupe concrètement. D'accord? De la même manière, on voit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans Michelet, il va faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ces louanges qui vont nous permettre de comprendre ce que son père voulait dire dans le Ashrei. Il dit que toi, Kadosh Baruch Hu, c'est pas que tu es le roi et que tu laisses d'autres personnes, d'autres subordonnés en dessous de toi pour faire le boulot. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais les deux. Tu es le roi et le dirigeant.
Alors c'est Sarkozy.
D'accord? Ah, Sarkozy, c'est le fond des deux.
C'est le roi et le président.
Le roi et le dirigeant, c'est le président et premier ministre,
c'est
Sarkozy. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, bien qu'il soit le roi du monde, on aurait pu penser comme ça, vous savez, il y a des gens qui pensent comme ça, surtout chez les goyim. Ils disent Dieu est le roi du monde, c'est vrai, mais il a laissé la gouvernance du monde à nous, dit les dirigeants.
Et
c'est logique.
C'est un peu comme ça. Mais...
C'est logique, d'accord. Alors justement, c'est logique de penser comme ça. Viens, Shlomo HaMelech me dit exactement le contraire, il dit non. Il dit Akadosh Baruch Hu nous fait croire à nos dirigeants que c'est eux qui dirigent, mais en vérité, les filles à émettre, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui les dirige.
Le libre.
D'accord.
Libre.
Et c'est pour ça qu'on dit dans le Alenu, qu'est-ce qu'on dit dans l'Alenu? D'accord. Oui, le libre arbitre, vous avez raison. C'est écrit que lorsqu'une personne a un poste important, devient président, etc., on dit qu'à ce moment-là, il a un libre arbitre qui est très limité, il a presque plus de libre arbitre. Une très bonne question ce que vous posez. Alors, on Bezrat Hashem, quand on arrivera à Alenu, on fera un cours sur ça, parce que dans Alenu, on parle de ça. Nous, Bezrat Hashem, dans quelques années.
Ouais.
C'est là, c'est une ségoula pour vivre longtemps, ça, comme ça. Alors, regarde dans l'Alenu, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'Alenu, on dit, Yakiru Viedou, Kol Yushvetevel, d'accord? Kielecha Kolberech. Que tous les habitants de la planète vont réaliser qu'en vérité, c'est à toi qu'on se prosterne. Ça veut dire quoi qu'ils vont réaliser que c'est à toi qu'on se prosterne? Mais est-ce que ça veut dire que, quand ma chère viendra, on se prosternera à Kadosh Baruch Hu, ou qu'ils vont réaliser ça? Et de là, on comprend qu'en vérité, ça se passe déjà comme ça aujourd'hui. Que aujourd'hui, le monde tourne comme à Kadosh Baruch Hu veut. Sauf qu'aujourd'hui, on le perçoit pas, on le comprend pas, on le voit pas. Lorsque ma chère viendra, on comprendra que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ce qu'on dit ici. Malchutra, Malchut Kololamim, ou même Shaltecha, Becholdor Vador. Que le fait que Kadosh Baruch Hu est le roi, ça on le sait aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre Mashiach. Mais par contre, même Shaltecha, le fait que Kadosh Baruch Hu, même Shaltecha, non seulement est le roi, mais il gouverne. C'est lui qui décide de la direction que le monde va prendre. Ça, Bechol Dor Vador. Ça, on doit parler des générations suivantes. Parce que ça, c'est pas forcément qu'on le voit aujourd'hui. D'accord? Donc, Malchutra, Marukolamim, ou même Shaltecha, Bechol Dor Vador. Alors, ici, normalement, le pasouk suivant devrait commencer par un Noun. On a suivi les lettres de l'alphabet. Et donc, on arrive à la lettre même, après la lettre même, on devrait avoir la lettre Noun. Alors ceux qui ont fait le début de la Gemara Brachot doivent connaître la réponse. Qu'est-ce que dit la Gemara Brachot?
Je peux
faire la Gemara Brachot? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il peut pas parler.
Oui, c'est ça.
Il dit que, en vérité, d'accord, la Gemara Brachot a posé la question, elle dit pourquoi le roi David n'a pas mis la lettre Noun dans Ashrei? C'est la seule lettre qui manque. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit Mipne Sheyeshbo Mapalatan Shelson et Israël. Puisque dans ce vers, dans le Noun, on aurait parlé de la défaite des Sonei Israël. C'est quoi Sonei Israël? C'est-à-dire ceux qui haïssent Israël. C'est une manière de dire, vous savez, quand on n'a pas envie de dire la défaite d'Israël, on dit la défaite de ceux qui haïssent Israël. Parce que même le prononcer, on n'a pas envie de le faire. Donc on dit, voilà, sur nos ennemis. La défaite de ceux qui haïssent Israël. Alors ça veut dire quoi? C'est expliqué comme ça dans les commentaires de la Gemara. Expliqué que le roi David, il avait prévu, à cet endroit de Ashrei, presque un chant, d'accord, mais un chant de détresse. Comme on voit Iov. Iov, il y a des chants, mais des chants, ce ne sont pas des chants de louange, des chants de détresse, dans lequel il voulait raconter, et il voulait chanter à Kadosh Baruch Hu, en tout cas il voulait raconter la galoute qu'on va vivre aujourd'hui. Il a prévu. Mais après il s'est dit, après le roi David, il a regretté. D'accord? Il a regretté. Pourquoi il a regretté? Il a regretté parce qu'il s'est dit, c'est pas par respect pour un Kadosh Baruch Hu, c'est pas de kavod pour un Kadosh Baruch Hu de parler de la défaite de ses enfants. Donc il a dit, je ne veux pas en parler. Mais pour montrer qu'il avait quelque chose de prêt, il a décidé de faire une allusion, ce qu'on appelle une allusion mouvhak, un siman mouvhak. Ça veut dire une allusion pertinente. Ça veut dire que vous allez voir que dans le pasouk suivant, Somer Hashem Lechol Han Noflim, le Noun, il est là. Donc il a décidé de faire une allusion pertinente pour montrer que il avait prévu de faire de faire justement cette louange et de parler de ça, mais qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il a eu la réponse dans le Samer. Samer, c'est comme semer, ça veut dire soutenir. Et il s'est dit, à quoi ça sert de rappeler aux Bnei Israël qui vont passer par une période difficile, puisque de toutes les façons, Dieu finira par les sommaire, Dieu finira par les soutenir, par les aider, par les relever, par les faire relever. D'accord?
Yunishmat, David.
Et Yunishmat?
David Yosef Ben Messaoudi.
David Yosef Ben Messaouda. Messaoudi, Messaouda. Saoudi. D'accord. Et Yunishmat, donc le croissant et les courbes, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le Noun. Donc on ne sait pas ce que le roi David a prévu. On ne sait pas. D'accord? On sait que le roi David a prévu quelque chose. Et vous savez, on comprend même des commentaires de la Gemara que c'est même possible que lui, quand il a écrit le texte de Yashré, il a écrit. Il l'a écrit. Mais qu'après, lorsque c'était retranscrit, c'était supprimé. Et ça, on le voit quelquefois dans la Torah. On voit quelquefois dans la Torah qu'il y a des choses que Dieu, entre guillemets, voulait dire, et que ça a été supprimé au passage, pas parce qu'on veut supprimer, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Parce que le fait même d'en parler, c'est pas bien.
Par les hommes?
Dans la Torah?
Non, par Dieu.
C'est pas dans la Torah.
Mais ça veut dire qu'il l'a écrit, c'est pas simplement qu'il voulait l'écrire.
Comment
ça, c'est qu'on s'en comprend, mes Mefarshim. Parce que d'où on sait, la question que les Mefarshim posent, dit d'où on sait que le Noun parle de la défaite des ennemis d'Israël. Avec le Noun, on peut faire ce qu'on veut. Il aurait pu parler de la défaite des ennemis d'Israël. Pourquoi tu dis que le Noun doit parler de la défaite d'Israël?
Dans ces cas-là, il n'avait pas besoin de le cacher.
Ah bah oui,
Noun, c'est l'écrire. Tu
comprends? Qui te dit que ça parle de ça? D'où le roi David savait que ça parlait. Il aurait pu faire autre chose. De là, on comprend qu'en vérité, il a eu roi Kodesh à ce moment-là. Il l'avait écrit. Il l'avait écrit, mais il a dit, je ne veux pas le mettre dans le psaume. Parce que je ne veux pas parler de la défaite d'Israël par respect. Pourquoi? Bah, le nous, c'est, ça veut dire, en tout cas, c'est une bonne question, ce que vous posez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce que le roi David a été inspiré lorsqu'il a écrit le Hacheré, c'était Néphila. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas écrit. C'est-à-dire qu'en même temps, il a eu une inspiration divine que ça allait se passer. Et en même temps, il ne l'a pas écrit parce qu'il a dit que ça ne se fait pas par respect pour Israël et par respect pour Akadosh Baruch Hu. Mais il a eu l'inspiration.
C'est une louange. Parce que sur n'importe quel mot qui commence par n'importe quelle lettre, on va trouver un sens négatif pour Israël.
Je viens de répondre à la question.
Non.
Je viens de dire que le Noun aurait pu dire la défaite des ennemis d'Israël, encore mieux. Donc ça aurait pu être une louange pour nous.
Une louange pour un, voilà.
Carrément.
On aurait pu, effectivement.
Et donc de là, on comprend qu'en vérité, le roi David avait été inspiré, qu'il avait déjà eu ce texte. Il avait les mots pour ça. Mais qu'au dernier moment, il s'est retenu, il a dit non. C'est-à-dire qu'il a été inspiré, donc il devait écrire, il ne peut pas inventer. Il a été inspiré. Mais il n'a pas écrit parce qu'il s'est dit, mais putain, Akavod, ça se fait pas. Par respect pour Akadosh Baruch Hu et par respect pour Israël, même si je sais quelque chose, je ne veux pas l'écrire. Combien d'histoires on a avec des tzadikim qui connaissent des choses et que par respect, ils ne le disent pas?
C'est ce que je te dis, on ne sait pas.
D'accord? Bon.
C'est comme le
rond.
C'est comme le chet. Même pas le chet parce
qu'il y a des... Oui, j'ai compris, oui.
Le P parce que c'est pas chano.
Je viens de répondre à la question, non?
Non. Bon. Pas pour moi.
Ok. Alors. Somer Hashem lechol hanoflim, vezokev lechol hakevufim. Alors, Somer Hashem lechol hanoflim, vezokev lechol hakevufim. Donc, on a le verset suivant qui commence par un Samer, on a sauté le Noun, mais qui va nous faire allusion au Noun. D'accord? Donc, il dit Somer Hashem lechol hanoflim, Akadosh Baruch Hu, Somer. Il va soutenir les Chol Hanoflim, tous ceux qui tombent, c'est au présent. Donc il parle de nous. Tous ceux qui tombent, tous ceux qui vont tomber, tous ceux qui tombent. Vezokef les Chol Hakefufim. Alors, regardez bien ici comment c'est précis aussi. On dit, Dieu soutient ceux qui tombent, Vezokef les Chol Hakefufim, et il aide à se relever ceux qui sont penchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voudrait s'imaginer ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est à plat, tout d'abord on va l'aider à se relever, mais il va être encore courbé. Et après, on va l'aider à du stade courbé, on va l'aider à se relever, on va l'aider à se relever complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est pauvre, ou financièrement ou bien même spirituellement, Akadosh Baruch Hu ne va pas le relever d'un coup. Tout d'abord, il va le relever un petit peu, il va le rendre courbé, et après, il va le rendre droit. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Froid directement, tu le prends pas, il est à plat, mets-le debout. Froid, t'as besoin de passer par ces deux phases. Alors, c'est écrit que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de bien, il y a le Aïnara. Le Aïnara, pas seulement des hommes, le Aïnara, même des malachim, entre guillemets, qui disent, ouh, celui-là, qu'est-ce qu'il mérite tout ça? Par contre, lorsque ça se passe progressivement, on remarque pas, entre guillemets, on dit, bon, ça va, on n'a rien vu. Mais lorsque tu viens, tu fais quelque chose de spectaculaire, là, les gens ouvrent les yeux. Les malachim ouvrent les yeux. C'est pour ça qu'on dit que Kadosh Baruch Hu, quand il nous aide, il fait toujours en plusieurs phases. Tout d'abord, quand on est à plat, il nous aide à nous relever, mais on n'est pas encore entièrement relevé. Et après, Zokef le Rola Kefufim. Après, il va permettre ceux qui étaient Kefufim, ça veut dire ceux qui étaient recourbés, il va leur permettre Zokef de se tenir droit. Zokef le Rola Kefufim. Vous voyez, encore une fois, on voit le chesed de Kadosh Baruch Hu. Et Nichol et Lecha et Saberu. Bon, ça c'est un passage aussi qui est très important.
Peut-être deux étapes aussi. Il y a vraiment ceux qui tombent.
Oui, bien sûr.
Et il y a ceux qui sont courbés, déjà.
Oui, mais là ce que je veux dire, c'est que... J'ai compris ce que vous voulez dire. Mais là ce qu'on veut dire, c'est que celui qui est par terre, oui. Dieu aurait pu le relever directement. D'accord ? Parce que sommaire, ça veut dire quoi ? Sommaire, ça veut dire soutenir.
Ça, c'est pas la...
il soutient.
Ben oui, mais ça veut dire quoi soutenir quelqu'un qui tombe ? On n'a pas dit il relève celui qui tombe, on a dit il soutient celui qui tombe. Soutenir, ça veut dire que bon, tu vas l'aider à se relever, mais ça veut pas dire qu'il est debout. Ça veut dire qu'on a deux phases. On soutient d'abord celui qui tombe pour essayer de le remettre sur ses pieds, et après, on le permet de se lever. Parce que ça doit aller progressivement, sinon il y a le inara. Enechol elecha yesaberu. Alors ensuite, on dit comme ça. Enechol elecha yesaberu. Les yeux de tous. Quand on dit tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les hommes, les animaux, les oiseaux, les poissons, les insectes, nature, tous, quoi. Toute la nature. Et les chayes saberu tournent leurs yeux vers toi. Pourquoi, bien sûr ? Pour avoir à manger. Ve'ata noten lahem. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu leur donnes. Et ochlam be'ito. Donc, alors, vous avez remarqué qu'on a commencé au pluriel. On a dit, les yeux de tous se tournent vers toi. Donc, c'est un pluriel. Et toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps. À la fin, le dernier mot est au singulier. Pourquoi au singulier ? Parce que ça veut dire que il n'y a pas de généralité. Il y a des gens qui préfèrent manger le jour, il y a des gens qui préfèrent manger la nuit. Il y a des gens, pourquoi c'est écrit aussi « et orlam beito » ? Le mot « et » est en trop. Le mot « et » est en trop ici. Non mais je ne parle pas seulement manger la nourriture. Le mot « et » ici, grammaticalement, est en trop. Parce qu'on aurait pu dire « vatan oten laem orlam beito ». Donc chaque fois qu'il y a écrit le mot « et », c'est ce qu'on appelle dans la Gemara un ribouille. C'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose. On rajoute quoi ? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous donne pas seulement ce qu'on a besoin, il nous donne aussi même le superflu, entre guillemets, et orlam beito. Beito en son temps, ça veut dire quoi en son temps? Ça veut dire que chacun son temps. Et des fois, on a besoin un peu plus, des fois, on a besoin un peu moins. Et à Kadosh Baruch Hu, il va s'adapter à chaque personne, à chaque moment. D'accord? Alors, ensuite, poteach et yadecha. Alors, là, ça, c'est la différence. La différence qu'il y a jusqu'à présent, d'accord? On dit que, j'entends pas. Non, ça, c'est toujours. Donc, Enechol Elecha Yesaberu, viens au cours, assis-toi. Donc, on a dit comme ça. On a dit, les yeux de tous sont dirigés vers toi, Kadosh Baruch Hu, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu leur donnes à manger en son temps. Alors, ça veut dire quoi, tu leur donnes à manger en son temps? Ça veut dire que, là, pour l'instant, Kadosh Baruch Hu va nous donner ce qu'on a besoin. Ça veut dire sans trop donner, il va donner un peu plus, mais ce qu'on a besoin. Le verset dans lequel on va parler de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que on nous demande d'avoir une kavana sur ce verset, c'est le verset suivant. Le verset suivant, Poter et Tedera Masbi al Raratson, c'est un verset qui est très important, dans lequel le Shulchan Aruch nous dit que si on n'a pas lu ce verset avec kavana, il faut le relire. D'accord? Et bien que nous explique le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, il dit qu'aujourd'hui, normalement, on ne demande pas aux gens de relire quand ils n'ont pas eu la Kavana, puisqu'on se dit que même s'ils vont le relire, ils n'auront pas la Kavana. Mais là, on dit celui-là, comme c'est inversé, et même qu'aujourd'hui, on a une génération de des gens qui avancent sans réfléchir, il dit là-bas, c'est comme ça s'écrit un Shulchan Aruch. Il dit que ça sert à rien de lui demander de répéter, tu veux lui demander de répéter, il va pas avoir la Kavana, donc il perd son temps. On perd le temps de tout le monde ici. Il dit, quand même, quand c'est inversé, on lui dit au moins inversé, essaye de t'accrocher et d'avoir la Kavana. Donc ici, il faut le répéter 10 fois, on le répétera 10 fois. Jusqu'à que ça arrange, jusqu'à qu'on a la Kavana. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on dit dans ce verset. Dans ce verset, on dit la chose suivante, on dit, Poteach et yadecha. Akadosh Baruch Hu, il ouvre sa main. Ou mazbia, et il va rassasier. L'echol chai à tout vivant, ratson à volonté. Donc là, on parle de rassasier. Rassasier, ça veut dire quoi? On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Rassasier, ça veut dire on lui donne bien plus que ce qu'il a besoin. Alors explique les commentaires que le verset Enechol Elecha Yesaberu parle des années de famine. Dans les années de famine, Akadosh Baruch Hu ne donnera pas de l'abondance. Dans les années, c'est-à-dire quand il n'y a pas pour tout le monde, Akadosh Baruch Hu va donner à chacun ce qu'il a besoin. Mais quand il y a l'abondance, Akadosh Baruch Hu va nous rassasier, va nous donner beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Alors, j'aimerais m'arrêter un peu plus sur ce verset, le pasuk Poteach et Yadecha. Poteach et Yadecha, on va prendre les Rashi Tevot et les Sofei Tevot. Rashi Tevot, ça veut dire les lettres qui commencent le mot et les lettres qui terminent le mot. On va commencer par Poteach et Yadecha. Poter, etc. On a la première lettre de Poter, c'est un P. P, c'est la valeur numérique de... P, c'est la valeur numérique de... Allez. Vous connaissez ou pas? Alors, je vais vous aider. P, c'est 80. D'accord? Ensuite, la première lettre de Aleph, c'est quoi? Et Yadecha, c'est Aleph. Aleph, c'est combien? C'est 1. Numériquement. Yadecha, la première lettre de Yadecha, c'est quoi? C'est 10. Ça nous fait combien? 80 plus 10 plus 1, ça fait combien? 91. 91, c'est la valeur numérique de quoi?
9 fois 9.
Alors, 91, écoutez bien. C'est la valeur numérique. 91, c'est la valeur numérique, écoutez bien. 2. 9 fois 9, c'est pas 91.
Non, 81, 81.
Alors, alors. Ah, double cœur, attention. Alors, Poter et Tchadecha, on a dit c'est Poter et Tchadecha, P, Aleph, Yud, c'est la valeur numérique de 91. 91, c'est la valeur numérique de 26, plus 26. On connaît 26. 26, c'est Yud qui est Vafke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Ado, virgule, Nai, on va calculer. Alors, Aleph, Ado, virgule, Nai. Aleph, 1, Dalet, 4, Nun, 50, ça fait combien? 55. Yud, 10, ça fait combien?
65.
65. 65 plus 26, ça fait combien? 91. On est là. D'accord? Donc, on a ici une allusion à Hachem et Elohim. À tout le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Yudke Vavke et Ado, virgule, Nai. La fin de, maintenant, on est sauf et tevot. Les dernières lettres de Poter et Tedera. On a le Chet, on a le Tav et on a le Raf. Vous suivez? Bon. Khatar. Khatar, c'est quoi? C'est écrit dans le Midrash, c'est le nom du Malhar, de l'ange, qui est responsable sur la Parnassa.
Khatar.
D'accord? Khatar, il s'appelle. D'accord? L'ange qui est responsable sur la Parnassa, c'est Khatar. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Comment il explique le Midrash? Il dit que là, en vérité, dans ce verset-là, Akadosh Baruch Hu est en train d'ordonner à l'ange qui est responsable à la Parnassa, il est en train de lui dire, donne-lui. Il mérite pas, donne-lui.
Le trésorier, quoi.
D'accord? C'est le trésorier. Non, c'est celui qui est responsable sur la Parnassa. Khatar. D'accord?
Où est-ce qu'on peut le rencontrer? Voilà.
Ensuite.
Prends-moi rendez-vous.
Ensuite. On a Umazbia. D'accord? Umazbia, le Cholchai Ratson. Alors. Umazbia, le Cholchai Ratson. Je vais m'arrêter sur les dernières lettres. Umazbia, le Cholchai Ratson. La dernière lettre de Mazbia, c'est Raïn. La dernière lettre de Lechol, c'est Lamed. Donc, Al. La dernière lettre de Chai, c'est Yud. Donc, Ali. Et la dernière lettre de Ratson, c'est Nun. Donc, Aline. Aline. Aline, ça veut dire quoi en hébreu? Des feuilles. Aline. C'est quoi? Ça veut dire quoi, des feuilles? Ça veut dire que ça correspond aux feuilles qu'Akadosh Baruch Hu, aux feuilles, aux feuilletages qu'Akadosh Baruch Hu va donner aux animaux. Et c'est pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu va donner, peut nous rassasier, même avec très peu. Et ça, c'est un message extraordinaire. Parce
quoi,
que,
quoi, comment tu
écoutez bien, je répète,
l'allusion?
Encore une fois, je répète. Dans le même verset qui est en train de nous parler de rassasier, qu'est-ce qu'il te dit? Il te parle de Aline, des feuilles. Je vais dire, mais des feuilles, moi, c'est pas ça ce que je veux. Moi, je veux bien manger, moi. C'est pas du feuillage que je veux. Et tu te moques de moi ou quoi? C'est que tu vas me rassasier avec du feuillage? Et là, vient le message. Pour nous dire que c'est pas parce qu'on va manger beaucoup qu'on sera rassasié, et c'est pas parce qu'on va manger peu qu'on sera pas rassasié. Comme il dit, le Midrash, il dit « Av bezavar muat atamasbio » que même avec peu, on peut être rassasié. Et que pauvre n'est pas pauvre celui qui n'a pas à manger, et pauvre celui qui n'est pas rassasié. Et celui qui a toujours faim. Et vous avez des gens qui sont très riches et qui mangent toujours et qui ont ce qu'ils veulent, et pourtant ils sont pas rassasiés. C'est ça. Masbia, quand on parle de rassasié, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit attention. Rassasié, ça veut pas dire que tu auras une grande quantité. C'est dans la tête rassasié. Ça, c'est la plus grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner. Quand on est rassasié dans la tête, donc là, c'est la réponse de Yaakov qui va au Chachat Sassiyav parmi nous. La plus grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner, c'est quand on est rassasié dans la tête. C'est la meilleure bracha qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner. C'est pour ça qu'on nous dit que dans le même verset, dans le même verset qui nous parle de Masbia l'Echorchai Ratson, qui nous parle d'être rassasié, il te dit attention, Masbia l'Echorchai Ratson, les dernières lettres de Masbia l'Echorchai Ratson, c'est Aline. Aline, ça veut dire avec même du feuillage, on peut être rassasié. C'est dans la tête que ça se passe. Si dans la tête, t'as décidé de te suivre de ce qu'on te donne, même avec du feuillage, tu peux être rassasié.
Du coton.
Alors, dans la tête. D'accord. Comment on dit dans le Pirkei Avot, on dit Ezehu Ashir, à sa mère Bechalko, qui est riche. D'accord. Celui qui est satisfait de sa part. C'est un message extraordinaire. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont très riches. D'accord. Et il va avoir la dernière voiture qui est sortie, mais il pense déjà à la prochaine. Il n'est pas rassasié. Il n'est pas rassasié. D'accord. Il est insatisfait. Donc s'il est insatisfait, ça veut dire qu'il n'est pas rassasié. Et d'un autre côté, son voisin, qui n'a pas de voiture, il est rassasié.
Donc on est d'accord qu'on parle à partir de certaines catégories de personnes.
Non,
c'est pas global. Parce que celui qui touche le SMIG,
Et qui a 1000 euros de loyer.
Mais qu'est-ce que t'en sais ce qu'il y a dans sa tête?
Mais c'est... Mais c'est...
Qu'est-ce que t'en sais?
Moi, 32 euros.
Il y a des pauvres,
Va voir des gens, tu as des gens, à Bnei Brak qui touchent même pas le SMIC.
David Yosef.
Ben Messaoudi. Vous verrez en Israël des gens, tu verras à Bnei Brak, pas à Bnei Brak. Tu as des gens qui ont même pas le SMIC. Ils n'ont rien. Et ils sont heureux. Ils sont heureux. Attention, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont rassasiés. C'est vrai qu'un des pièges de la galoute de l'exil, c'est qu'on ne le voit pas explicitement comment on est récompensé pour nos mitzvot. Ça c'est vrai. Et ça c'est un piège de la galoute. Mais une chose que Dieu ne nous a pas enlevée, c'est que même en galoute, et même si on n'a pas ce qu'on devrait recevoir, parce que normalement Dieu a dit, si vous faites les mitzvot, je vous donnerai la récolte dans votre champ. Donc normalement on devrait être riche quand on fait les mitzvot. Ça c'est le piège de la galoute, certes. Mais une chose que Dieu ne nous a pas enlevée, c'est la chance que même si on n'a pas, on peut être rassasié. On peut être bien dans sa peau. Mais ça c'est la plus grande voie qui existe.
Ça dépend pas de la serein, quoi.
Bien sûr.
Alors où est le... Pourquoi... C'est pas un psaume... C'est pas un psaume à
avoir confiance.
Qu'on devrait faire.
C'est
justement,
c'est
pour ça que dans le même verset qui nous dit rassasier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut être rassasié même avec du payage. Dieu dit, moi je te donne ce que tu as besoin. Après c'est toi dans ta tête, qu'est-ce que tu vas en faire? Comprends? Ça veut dire que si une personne, par Baruch Hashem, a la chance d'aller en vacances, mais après il va dire, mais je voudrais de meilleures vacances, en personne ne sera jamais rassasié. Ah oui. Non, je parle en général. D'accord.
Ouais, c'est vrai.
C'est en général. Mais oui. Ça veut dire qu'on n'est jamais rassasié. C'est ça la culture de la consommation d'aujourd'hui. C'est qu'on te donne quelque chose, tu veux plus, donc on n'est jamais rassasié. C'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Masbiel Khoagaston, on peut être rassasié avec du feuillage. C'est ça. Alors ça me rappelle Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, celui qui est âgé. Il a raconté, il m'a dit une fois, il était à une synagogue à Tel Aviv. Et il a vu, il y avait une personne qui, quand il a fait poter, c'est vrai, on a l'habitude de lever les mains, il a fait les mains comme ça. Alors il a raconté, il a dit que le rabbin, il lui a dit, si tu fais les mains comme ça, Akadosh Baruch Hu va donner la bracha, elle va tomber, c'est comme ça qu'il faut tenir. Mais c'est un message qui est très fort. C'est-à-dire que les gens, ils font grand comme ça, ils croient que pour être rassasié, il faut, des fois avec ça, ça peut suffire. C'est ça. Si tu as peu et que tu l'attrapes, c'est un grand message. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Voilà.
Des grandes feuilles de palmier pour récupérer.
Ce qui compte, c'est être rassasié. Attention, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut pas être riche. Alors, je sais que j'ai raconté il n'y a pas longtemps, il y avait une yéhidoute une fois, une entrevue entre le rabbi et le admor de Sadigoura. Et il y avait presque un dialogue comme ça entre les deux, mais presque une marloquette. Est-ce qu'il fallait donner une bracha aux juifs d'être riches ou pas? Et la conclusion du rabbi, c'était qu'il faut donner une bracha, qu'il faut être riche. Et que l'épreuve de la richesse est moins grande que l'épreuve de la pauvreté. Parce que quelqu'un qui est pauvre a beaucoup de mal à étudier la Torah. Tu comprends? Il a beaucoup de mal. Tu lui étudies la Torah, il n'a pas la tête à ça. C'est-à-dire que même s'il veut, il peut pas. Alors que celui qui est riche, s'il veut, il peut. Bon, quoi qu'il en soit. Ce qu'on a compris d'ici, c'est que Masbial Khoharatol, le plus important, c'est d'être rassasié, d'être content, d'être heureux de ce qu'on a. D'être bien portant. Voilà. Comment ça se fait que les gens qui sont gros, on les appelle bien portants? Vous avez déjà réfléchi à ça?
C'est une erreur de langage.
Mais pourquoi on les appelle bien portants?
Parce qu'à l'époque,
ils portent beaucoup
de gens en mourant de faim.
Pourquoi on les appelle les gens bien portants? Bien portants parce que ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau, c'est tout. Alors, on continue. Poter, etc. Voilà, donc ce verset, très important. Même si, pour X ou Y raison, vous bâclez la tila, ce verset-là, il faut s'arrêter dessus, il faut prendre son temps, il faut avoir la kavana, kakadosh, baohu, nous donne ce qu'on a besoin. Non, mais ça, c'est très important. Et ça, c'est le seul verset dans lequel le Shulchan Aruch nous dit, si on n'a pas eu la kavana, on répète. Ça, il ne dit pas sur Baruch Shamar. Baruch Shamar, c'est important. Mais ça, c'est très important. Si on n'a pas eu la kavana, on recommence. Autant de fois qu'il faudra.
La marque en fait, c'est pas ce qui est important, c'est la prière ou l'étude. Parce que celui qui est riche, c'est effectivement, il va peut-être plus étudier, avoir la tête à étudier, mais par contre, celui qui est pauvre, qui a besoin, il va prier avec plus de kavana que celui qui est riche, il compte sur lui aussi.
Non, le fond de la marque en fait, là-bas, c'était quelle est la plus grande épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve de la pauvreté ou l'épreuve de la richesse?
Par rapport à l'étude, mais par rapport à la prière.
Non, non, pas, rien à voir avec l'étude. C'est en général. Alors, quelle est la plus grande épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve de la richesse ou l'épreuve de la pauvreté? Être riche, c'est une épreuve aussi.
Bien sûr.
Être pauvre, c'est aussi une épreuve.
Être riche, c'est une épreuve pour la prière, parce que celui qui est riche, a priori, il ne va pas être dans un autre moment de détresse, il va avoir besoin de prier Dieu.
C'est ça le Masbir Haratzon. Au contraire, tu vois, je te dis, les riches, en général, ils sont moins heureux dans leur vie que les pauvres. Il faut savoir ça.
Tu veux la moitié?
Les riches, c'est véridique. Les riches sont moins heureux dans leur vie que les pauvres. C'est plus difficile pour un riche d'être heureux dans sa vie qu'un pauvre. Qu'un pauvre, il se suffit plus facilement. C'est très difficile pour un riche, parce qu'il veut toujours encore plus, encore plus. Garder l'humilité en ayant l'argent, c'est très dur. C'est difficile. D'accord. Mais Akadosh Baruch Hu nous aide.
Il faut connaître le bonheur dans une maison.
Bien sûr, bien sûr. Ensuite.
Le riche, il a déjà manqué quelque chose.
Allez, quelle heure il est? Quelle heure? On a déjà fait une demi-heure.
25.
Bon, allez, on s'arrête, on a fait une demi-heure. On s'arrête ici, on continue la semaine prochaine.